Bonsoir. Après les élections de 2011, quel bilan dressé de la gestion de la province du Kassai-Occidental sur les plans politiques, sécuritaires et socio-économiques? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Nos invités sont Honorable Martin Kabuya Mulamba, député national de l'opposition et cadre de l'UDPS. Il est élu du territoire de Dibaya au Kassai-Occidental. Honorable Kabuya, bonsoir.
Bonsoir cher ami Alain et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Prudent Toumba, acteur de la société civile du Kassai-Occidental. Monsieur Toumba, bonsoir.
Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Nous avons contacté les plus hautes autorités de la province. Malgré cela, il n'a pas été possible d'avoir dans cette émission un délégué du gouvernement provincial du Kassai-Occidental à Kananga. Vous nous suivez sur 93 FM et partout au monde sur RadioKapi.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Dialogue entre Congolais se penche ce soir sur la gestion de la province du Kassai-Occidental après les élections de 2011. Quel bilan peut-on dresser sur les plans politiques, sécuritaires et socio-économiques? Pour en parler, nous avons en ligne André Kambala, notre correspondant dans la ville de Kananga. Bonsoir André Kambala.
Bonsoir Alain Hirong-Mchinge.
André, commençons par le plan politique. Que pouvons-nous retenir sur cet aspect?
Le Kassai-Occidental est à son deuxième gouverneur depuis novembre 2011. Quelques mois après les élections, le gouverneur Hubert Kabasobabo a été déçu par une motion signée par les députés provinciaux. Une situation qui a été interprétée différemment par la population. La province est restée dirigée de mai à décembre 2012 par un gouverneur intérimaire. Comme l'intérimaire a un pouvoir limité, plusieurs observateurs ont relevé que la province n'évoluait pas sur le plan politique. Mais depuis décembre 2012 jusqu'à ce jour, la province est dirigée par Alex Kandimopompa. D'après les observateurs, il n'existe pas d'opposition. L'entente est apparemment parfaite entre les deux institutions. Comme pour dire que le contrôle parlementaire se fait aussi dans la quiétude. Il faut aussi ajouter que le parlementaire entre et se côtoie et se consulte sans problème.
André Kambala, que dire de la situation sécuritaire?
Selon les sources sécuritaires, un calme est observé au Kassai-Occidental sur ce plan. Mais il y a peu de temps, des regains d'insécurité ont secoué les villes de Tikapa et de Kananga. D'abord à Tikapa, où la bande Angolé-Labrisse a semé la terreur et endeuillé plus de 200 familles. Ce réseau a été presque démantelé en mi-mars 2013. À Kananga, l'insécurité est montée d'un cran de décembre 2013 à mars 2014. Les autorités se sont investies jusqu'à mettre fin à cette situation, quand bien même il reste de petits groupes isolés.
André Kambala, pour finir, venons-en à la situation socio-économique. Qu'en est-il?
Alain, dans ce secteur, il y a beaucoup à dire. Sur le plan sanitaire, les sources médicales signalent des pandémies comme le paludisme qui secoue les différentes zones de santé de la province. En matière d'éducation, on observe une prolifération d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire dans tout le coin et recoin de la province, en commençant par la ville de Kananga, qui en compte près d'une vingtaine. La desserte en eau et en électricité pose beaucoup de problèmes dans les deux villes Tikapa et Kananga, malgré les efforts du gouvernement provincial. Sur le plan économique, la seule issue pour le développement de la province reste la centrale hydroélectrique de Katende. La délégation conduite par le gouverneur dernièrement sur place a noté que les travaux évoluent et ont atteint 37% de leur exécution. Les opérateurs économiques se disent asphyxiés par des taxes, si bien que les uns choisissent de s'exiler dans d'autres provinces comme au Katanga et à Kinshasa. Il faut faire remarquer que la province a signé plusieurs partenariats avec diverses firmes, avec espoir que le lendemain sera meilleur. Aussi, le Kassai-Occidental a ouvert ses frontières avec la province angolaise de Lunda Norte pour des échanges commerciaux.
Merci André Kambala et bonne soirée à Kananga.
Merci Alain Hirong.
Honorable Martin Kabuya Mulamba, vous êtes député national de l'opposition et cadre de l'UDPS. Vous êtes élu du territoire de Dibaya au Kassai-Occidental. Je vous propose à tous que l'on commence par les aspects politiques et sécuritaires. Honorable, quel est votre bilan?
Merci beaucoup Alain, merci aux auditeurs de Radio Capi qui nous suivent ce soir. Écoutez, chers amis, sur le plan politique, à ma connaissance, le bilan est globalement négatif. Parce que comme vous le savez, le Kasaï occidental est à son troisième gouverneur de province depuis les élections de 2011 que tout le monde a décrié. Vous savez, en 2011, immédiatement après les élections, il y avait le gouverneur Thomas Babou ici qui avait été démis de ses fonctions par l'Assemblée provinciale pour, entre autres motifs, qu'il avait été largement battu dans la ville de Kananga où il était candidat aux élections législatives et surtout qu'il n'avait pas livré la province de Kasaï occidental à la majorité kabiliste. Ça, c'était le premier grief mis à charge du gouverneur Kabasu Babo. Le deuxième grief, à ma connaissance, je l'avais suivi en son sur Radio Okapi, où M. Kabasu Babo reprochait aux provinciaux de lui exiger de leur donner l'argent. Et comme lui ne leur en donnait pas, il avait déclaré clairement qu'il n'était pas automatique d'espèces sonnantes. Alors, ça avait causé ou créé la colère des députés provinciaux qui ont décidé de le démettre. Et enfin, ils l'ont démis. Il a été remplacé pendant environ une heure par M. Mwamba Kantogangila. Et comme vous le savez, les pouvoirs d'un gouverneur intérimaire sont très limités. Et monsieur n'a pas pu faire quoi pour le décollage de la province. Et vous savez, avec l'arrivée de cet intérimaire, la province a souffert de cette instabilité. Et il a été difficile pour la province de décoller parce que la province voisine du Kasaï oriental, qui n'a pas connu d'instabilité au niveau de province, est restée sereine depuis les élections qui ont vu M. Moïse Kassangi portant la tête de province, ou encore moins au Katanga, où il y a Moïse Katumbi-Chapoui qui a été élu en janvier 2007 et qui continue à être gouverneur jusqu'à ce jour. Mais le Kasaï occidental est à son troisième gouverneur. J'ai cité le gouverneur Alex Kandemupompa, qui est un ancien député, qui aujourd'hui essaie de faire s'inculper pour redonner le blason de la province, mais il est très limité parce que, je vous en parlerai plus tard, il ne peut rien faire sans l'appui du gouvernement central. Pour qu'il puisse asseoir son autorité et qu'il puisse asseoir son pouvoir, il doit être soutenu par le gouvernement central, essentiellement à travers la rétrocession ou la retenue à la source.
Honorable Martin Kabuya.
La constitution de 40%.
Honorable Kabuya.
Oui, cher ami.
Voilà, là, vous venez de tout à l'heure d'évoquer les griefs que l'on avait retenus contre l'ancien gouverneur Kabasu Babo. J'ai retenu notamment le fait qu'il n'ait pas pu livrer la province du Kasaï occidental à la majorité présidentielle, mais maintenant, plusieurs sources affirment qu'au Kasaï occidental, il n'y a plus d'opposition. Est-ce que vous ne trouvez pas cette situation assez paradoxale?
C'est une citation paradoxale, cher Alain, pour la simple et bonne raison qu'il a été constaté que tous les amis qui avaient été élus députés provinciaux sous les étiquettes de partis d'opposition, entre autres le MLC, le RCD, ils ont tous globalement déserté ces partis, ils ont rejoint les camps de la majorité, ce qui doit... Il fallait bien qu'il y ait l'opposition au sein de l'Assemblée provinciale des Kasaï occidentales pour, parce qu'on dit chez nous ou partout ailleurs, c'est du choc des idées qu'il y a eu la lumière. Mais maintenant qu'il n'y a qu'une seule parole, il n'y a pas de parole discordante, ça pose problème. Mais si ça profite aux uns aux autres, eh bien, nous observons cela.
Alors, à quoi vous attribuez cette instabilité au niveau de l'exécutif? Il y a plusieurs gouverneurs qui se sont succédés, vous-même vous l'avez dit.
Moi, je pense que cela est dû à l'apprentissage démocratique et aussi aux appétits gloutons de certains politiciens de leur place. Parce que tout le monde voudrait se voir gouverneur, tout le monde voudrait se voir ministre, mais comme le gouverneur provincial, la constitution le limite à 10 personnes, alors le gouverneur provincial ne peut pas faire de la magie pour prendre tout son village ou tous ses amis, le mettre au gouverneur provincial. Parce que quand on ne se retrouve pas au gouverneur provincial, on devient automatiquement opposé au gouverneur. Quand on ne se retrouve pas à la dixième époque, automatiquement, on devient opposé au gouverneur. C'est ça ma lecture de choses, cher Alain.
Alors, sur le plan sécuritaire, quelle est votre analyse?
Mais sur le plan sécuritaire, il y a une, il y a un semblant de calme qui règne. Vous savez, pas plus tard que l'année dernière, à Tchikapa, il régnait une insécurité totale. Heureusement que, grâce aux bravoures du major Omokoko de la police station congolaise, il a mis un terme à l'aventure meurtrière de Monsieur Moulin Bruce et de sa bande. Et à Kananga, ici, la population a soudain remarqué qu'il y avait insécurité à partir de décembre jusqu'au mois de mars. Heureusement que les amis qui sont au niveau du gouvernement provincial avec le gouverneur Kandé ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais la population du Kassai occidental et principalement celle de la ville de Kananga a dénoncé la présence, parce que parmi le militaire ou le bandit arrêté, il y avait essentiellement le militaire du 812e régiment, qui est un régiment commando détaché de la province du Kassai occidental. Alors la plupart des militaires arrêtés sont membres de ces régiments.
Merci.
Et heureusement que la justice y est passée, les choses sont redevenues à l'ordre. On espère que ça va être maintenu jusqu'aux prochaines séances peut-être, parce que
merci,
moi qui vous parle ce soir, je vous appelle de Kananga et je trouve qu'il y a un semblant de calme et de paix.
Merci, honorable. Trudon Toumba, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes du Kassai occidental, vous êtes également à Kananga. Sur le plan politique et sécuritaire, quel est, comment vous analysez le bilan de la gestion de cette province?
Les journalistes, en dépit du fait que mon prédécesseur a eu à faire la peinture de la situation politique et sécuritaire de la province, je n'aurais justement jeter un coup d'œil sur un certain nombre d'aspects. Il vous souviendra que la province de Kassai occidental est caractérisée par une certaine instabilité. Cette instabilité, le prédécesseur a eu à le relever, c'est notamment le fait que depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous avons connu respectivement trois gouvernements provinciaux. Ça, c'est du point de vue politique. Mais également l'autre aspect, c'est que on a affaire à une opposition qui n'a plus pratiquement l'expression ici. Elle aura été muselée dès lors que des guerres et des candidats qui s'étaient présentés, notamment à des listes de l'opposition, à ce jour, sans rire, ils ont embrassé donc la majorité. Et à côté de cela également, il y a cette sorte de chantage qui s'observe dans les milieux politiques où quiconque émet une opinion contraire, notamment dans cet espace de démocratie que j'appelle l'organe des libérants à l'Assemblée provinciale, quiconque émet une opinion contraire, c'est un solution du chantage où l'on lui dit, écoutez, monsieur, vous bloquez le développement de la province, ça, c'est, j'appelle cela le chantage, c'est donc une menace quant à la démocratie. Mais que les uns et les autres fédèrent autour des idéaux communs, cela peut être, n'est-ce pas, louable, mais n'empêche qu'il y ait quand même la divergence d'opinion pour, n'est-ce pas, offrir la chance à la jeune démocratie. Donc, dans laquelle se trouve être, n'est-ce pas, la démocratie du Congo. Alors, du point de vue sécuritaire, en dehors de ce que mon co-débatteur a déjà évoqué, moi, je reviens notamment sur un certain nombre d'aspects. J'en trouve deux. Le premier, c'est que la province du Kassai occidental, à ce jour, est en train d'expérimenter, notamment dans la ville de Kananga, ce que l'on appelle ici la mise en œuvre de la doctrine des proximités. Il a eu, n'est-ce pas, à produire ses fruits en termes, n'est-ce pas, de cohabitation pacifique, de collaboration, d'esprit, n'est-ce pas, de collaboration, de partenariat entre la population et les organes de sécurité, notamment la police nationale congolaise, dont le travail est à ce jour salué, n'est-ce pas, de la part de la population. C'est d'ailleurs au nom de cette doctrine de la police de proximité que l'insécurité qui a eu à prévaloir dans la ville de Kananga a eu à être jugulée dès lors que les populations se sont dites de ce qu'il fallait, n'est pas rendre la question sécuritaire un tabou, il lui fallut se confier, n'est-ce pas, au service de sécurité pour dénoncer les malfrats. Mais le deuxième atout que j'aimerais relever, c'est que la ville de Kananga, le chef-lieu de la ville de Chauvet de la province occidentale, n'est pas fait fonctionner ici la plus grande, l'une des plus grandes académies militaires, donc, à ce jour, n'est-ce pas, se prévaloir la République démocratique du Congo. Il vous souviendra, monsieur le journaliste, que les meilleurs officiers de notre pays, les meilleurs officiers des FRDC sont notamment recrutés, n'est-ce pas, ils sont passés par l'académie militaire, n'est-ce pas, de Kananga, appelée autrefois école de formation d'officiers. C'est donc des atouts, mais à côté de cela, hélas, il y a eu un certain nombre de gâchis, et notamment l'insécurité évoquée notamment par mon co-débatteur, mon prédécesseur, il y a eu notamment évoqué l'insécurité qui a prévalu, notamment dans la ville de Tikapa, ainsi que dans la ville de Kananga, aux alentours du mois de décembre, mais qui a eu une séance en termes vers le mois de mars de l'année en cours. C'est donc cela que l'on peut relever du point de vue de la sécurité et du point de vue de la politique.
Alors, Trudon Toumba, vous avez, pour revenir sur l'aspect politique, vous avez parlé d'un certain chantage qu'exerce l'organe délibérant sur l'exécutif. Il y a Maître Adrien Ilobakwe qui nous écrit de Kananga qui dit « Sur le plan politique, rien ne marche car l'opposition n'existe plus au sein de l'Assemblée provinciale, ce qui fait que le contrôle parlementaire est presque inexistant, tout le monde étant de la majorité. Qui contrôle qui ? Vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pouvez également nous dire en ce qui concerne le contrôle parlementaire ?
Oui, de toute façon, moi j'estime, nous estimons pour notre part que, à ce jour, que l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial se soient mis d'accord pour ne pas parler des objectifs communs, c'est un idéal, c'est une très bonne idée. Mais que cela fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'opposition, que l'opposition soit muselée comme pour dire que, écoutez, tout ce que fait. Et n'est-ce pas, l'exécutif est bon, on devrait applaudir de demain. J'estime pour ma part que c'est un danger, n'est-ce pas, pour la démocratie. Parce qu'on ne va quand même pas se dire que tous nous devons converger, mais encore faut-il qu'il y ait, par rapport, je parle, n'est-ce pas, par rapport à la science à offrir à la démocratie, il y ait quand même ce qu'on appelle la divergence d'opinion. Il y ait quand même le contrôle parlementaire. On ne va quand même pas se dire que tout le gouvernement, tous les juges provinciaux et les étatiques fonctionnent comme si de rien n'était et qu'on est là qu'à applaudir, s'il vous plaît. Nous n'avons pas ici le droit, encore une fois, ici, et ça d'applaudir la pensée unique, malheureusement, mais velléité de pouvoir imposer la pensée unique au Conseil occidental, ça résiste dès lors que l'on trouve dans la plupart des acteurs qui sont ici, beaucoup encore, n'est-ce pas, ces chaînes-là, savez-vous, ce n'est pas très, très facile de passer d'un régime qui a eu à faire son temps, 32 ans durant, c'est pas facile. Écoutez, on peut bien rassembler les idéaux, ou plutôt rassembler les idées par rapport à l'idéal commun, les objectifs communs à atteindre en termes, n'est-ce pas, d'engranger les efforts pour développer la province. Très bonne idée, mais que l'on nous impose ici une idée, une pensée unique pour que l'on applaudisse tout ce que fait, n'est-ce pas, l'exécutif.
Merci.
Ce que font, n'est-ce pas, les services provinciaux de l'État, je me dis là, alors c'est un danger par rapport à la démocratie.
Maître Soudi Alimasi Kimputu, vous êtes expert en décentralisation. Vous venez de suivre l'honorable Kabuya et également Trudon Toumba. Pour vous, comment vous analysez le bilan de la gestion de la province du Kasaï occidental après les élections de 2011 jusqu'à ce jour sur les aspects politiques et sécuritaires?
Merci beaucoup Alain. Permettez-moi au début de constater que dans ces genres de débats, nous n'avons pas un membre du gouvernement provincial.
Malheureusement.
Ce n'est pas du tout positif parce que les différentes provinces devront désormais se soumettre au principe de redevabilité, bien qu'il est organisé au niveau de nos lois et de la Constitution. Mais il y a aussi ces contrôles citoyens qui doivent à un moment donné s'exercer à travers ces genres de missions, les auditeurs essaient de poser des questions, mais en même temps, on essaie d'informer la population sur ce qui est réellement fait. Ceci dit, je voudrais d'abord rappeler au niveau politique, qui doit être associé essentiellement à l'aspect administratif de la gestion des choses. Là, nous devons évaluer cette province du point de vue fonctionnement et stabilité des institutions provinciales. Est-ce que les institutions provinciales fonctionnent correctement ? À suivre les auditeurs et d'autres intervenants de tout à l'heure, il se fait qu'il y ait une accalmie des institutions. Mais il y a un danger lorsque les institutions qui sont censées exercer un contrôle permanent
Maître Soudi,
vis-à-vis des institutions...
Maître oui. Soudi, je vous prie de m'excuser, vous gardez la parole. Si vous avez une radio à côté, je vous prie de la fermer pour que votre son soit plus clair.
D'accord.
Je vous en prie, allez-y, vous avez la parole.
Et donc, je disais, il y a un danger lorsque les institutions qui sont censées exercer un contrôle de gestion de manière permanente, légale et constitutionnelle, ne le font plus. Le contrôle ne signifie pas une motion de défiance ou de censure. Le contrôle veut tout simplement dire, et la Constitution l'a organisé, il y a des questions orales, il y a des questions écrites, il y a des motions d'information, Et tous ces attributs doivent être exercés entre le législatif provincial et l'exécutif provincial. Lorsque ça n'existe plus, alors c'est une bombe à retardement parce que lorsqu'il y aura des insatisfaits, on va retourner à l'instabilité des institutions provinciales. Et je voudrais corriger l'introduction de tout à l'heure. On n'est pas au deuxième gouverneur au Kassai occidental, on est au troisième gouverneur au Kassai occidental. Deuxièmement, du point de vue politique et administratif, nous devons évaluer le gouvernement provincial du point de vue de l'organisation des services centraux en province. Parce que ne perdez pas de vue que le gouverneur de province est en même temps le représentant du pouvoir central en province. Il porte double casquette. Bien entendu, c'est encore un sujet à discussion, parce que représenter, il joue en même temps le rôle de préfet, donc il représente le pouvoir central. En même temps, il est l'élu du niveau provincial. Il y a un conflit du point de vue du principe de libre administration des provinces à travers la personne du gouverneur de province. Mais aussi, sur ce point de vue, nous devons évaluer le gouvernement provincial sur la mise en place et l'organisation des services provinciaux. Au niveau des provinces, conformément à la Constitution et aux lois, il y a des compétences exclusives qui permettent à la province de mettre en place ses services, ses propres services, pour exercer ses compétences. Bien entendu, en étroite collaboration avec les services centraux dans les domaines où il y a concurrence. Alors, à ce niveau, est-ce que le gouverneur Kandé et son gouvernement et l'Assemblée provinciale, parce que nous ne donnons pas l'impression que nous évaluons ici seulement le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, nous devons les évaluer sur leur rendement. Qu'est-ce qu'ils ont produit au jour d'aujourd'hui? Je crois que depuis 2011, nous sommes en 2014, il y a à peu près 3 ans. Alors, du point de vue sécuritaire, nous savons très bien que au niveau de la province du Kassai occidental, jusqu'à ces jours, nous enregistrons des conflits coutumiers, qui sont des conflits de communautés. Est-ce que ces questions sont résolues? Ou quel est le taux de résolution de ces conflits qui effectivement entraînent de l'insécurité lorsqu'il y a affrontement entre ces différentes communautés? Comme partout ailleurs au Congo, il y a un réel problème de tracasserie policière et autres au niveau de la population. Les différentes barrières, est-ce qu'elles sont levées au jour d'aujourd'hui, depuis la prise de pouvoir de ces gouvernements provinciaux? Eh bien, j'ai suivi les intervenants de tout à l'heure qui ont parlé des différentes bandes organisées. Effectivement, là, nous donnons un coup de chapeau à la police nationale congolaise. Mais nous devons ici, lorsque nous faisons cette évaluation, faire une nuance entre l'action menée par la politique du gouvernement provincial distincte de celle, je sais que la question sécuritaire est une question de compétences concurrentes, mais les initiatives du gouvernement provincial doivent en même temps aussi être mises en exergue pour voir quel est le taux ou les niveaux du fonctionnement des institutions provinciales dans ces différents secteurs.
Maître
voilà
Soudi.
Comment. Oui.
Généralement, quand dans ces genres d'émissions avec les provinces, souvent les interlocuteurs nous parlent de la mainmise de Kinshasa, des influences venues de Kinshasa. Apparemment, la province du Kassai occidental semble y échapper.
Écoutez, à un moment donné, c'est vrai, c'est une histoire vraie, mais aussi à un certain niveau, il y a la responsabilité des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales. Et qui est engagé. Parce que lorsqu'on cherche à se couvrir derrière les interventions du gouvernement central, à un moment donné, on cache aussi sa propre compétence et les différentes actions que la province pourrait engager dans tel ou tel autre domaine. Nous savons qu'il y a des mainmises sur les questions politiques, notamment la couverture ou la protection des X ou Y, mais à ce niveau, nous comprenons que sur le plan de la stabilité des institutions provinciales, il n'y a pas encore jusque-là des conflits ouverts entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale.
Merci.
Mais nous n'avons pas non plus constaté que l'Assemblée provinciale, dans cette stabilité, a exercé convenablement ses attributions vis-à-vis du gouvernement provincial.
Merci.
À moins que l'on nous dise que le gouvernement provincial fonctionne parfaitement à ce jour, qu'il n'y ait aucune action de contrôle ou d'information de tout ce que la loi et la Constitution prévoient. C'est ça la grande crainte.
Merci, Maître Soudi. Certains habitants de la ville de Kananga ont aussi dressé leur bilan de la gestion de la province du Kassai occidental. On les écoute au micro d'André Kambala.
la politique est assise parce que nous, le nez comme jadis, nous sommes en train de voir que toutes les tendances politiques sont écoutées. Il n'y a pas d'étouffement. Les acteurs politiques sont libres. Ce n'est pas comme jadis. C'est tout ce que je peux avancer comme argument là-bas. La politique de la province est assise.
Le pouvoir en place, on a l'impression qu'il est absent. Depuis que le gouverneur est là, on ne ressent même pas sa présence. Il y a ces situations qui se passent qui nécessiteraient l'intervention directe du gouverneur, mais c'est un silence. Récemment, on a connu des tracasseries militaires pendant plus d'un mois, mais on entendait parler des conseils de sécurité. Mais il a fallu que les chefs coutumiers prennent en charge la situation pour chercher à trouver une solution de façon tout à fait coutumière. Et finalement, on a connu ceux-là qui étaient à la base de cette insécurité.
Ce que nous devons faire, c'est de remercier d'abord son excellence, monsieur le gouverneur de province, Alex Kandé, pour avoir la maîtrise de la politique au sein de notre province. Parce que l'Assemblée provinciale actuellement n'a pas d'opposition. C'est vraiment ce qui a frappé tout Kanangé. Parce que vous ne pouvez pas trouver dans une province où tout le monde est dans la majorité, comme ça se passe actuellement. Sur le plan sécuritaire, nous avons décrié l'insécurité qui a battu record au sein de la province, mais avec l'appui de son excellence, monsieur le gouverneur de province et son gouvernement et la population du Kassai occidental, on a su maîtriser le policier, le militaire et la population qui vaguait à cette insécurité.
C'est la province aujourd'hui que tout le monde, surtout les originaires, ne voudraient plus habiter. Nous sommes en train de les voir nombrer, chercher à aller au Chaba, ceux qui ont des moyens, Kinshasa, sur la question relative à l'énergie électrique, le désenclavement. On a dû maîtriser quand même les prix d'enrées de première nécessité qui sont produits localement. Mais quand vous comparez les efforts produits par les agriculteurs par rapport au prix de tous les produits importés d'ailleurs, vous sentez que quelqu'un qui aurait investi tout son temps dans l'agriculture, il ne peut pas émerger parce qu'il va toujours vendre tous ses produits à un prix dérisoire par rapport à tous les produits manufacturés.
Sur le plan socio-économique, il y a eu quand même une stabilité des prix sur le marché. Les produits de première nécessité sont triviables au même prix depuis qu'Alex est là. À part de petits problèmes de bancarisation, les enseignants se plaignent, beaucoup de travailleurs se plaignent du retard de serviabilité de banque.
Honorable Martin Kabouya, vous avez suivi tout à l'heure Maître Soudi. Là, on devrait en principe déjà aborder la deuxième partie, le plan socio-économique. Mais je vous prie d'émettre un bref commentaire par rapport à l'analyse de Maître Soudi, l'expert en décentralisation que vous avez suivi.
Je suis tout à fait d'accord avec Maître Soudi. Avec l'absence de l'opposition au sein de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental, ça n'arrange pas beaucoup de choses. Je crois qu'il aurait été très souhaitable, dans le cadre de la redevabilité, qu'il y ait opposition pour que l'opposition puisse exercer ses différents attributs avec des questions orales, des questions écrites, des motions d'information, des motions de les différents mécanismes mis en place pour contrôler l'action du gouvernement provincial. Mais comme ça n'existe pas, je pense qu'ils sont interpellés ce soir à travers cette émission pour que si réellement ils avaient été élus et qu'ils sont redevables vis-à-vis de ce peuple, qu'ils puissent se conformer, qu'ils puissent vraiment faire ce que le peuple leur avait demandé de faire, c'est-à-dire répondre à cette desiderata en établissant une opposition réelle. Qui dit opposition ne veut pas dire forcément qu'avec l'opposition on va faire des motions de censure, des motions de défiance. Il faudrait qu'il y ait opposition réellement au sein de l'Assemblée provinciale du Kassai pour faire avancer les choses. La nette conviction que tout le monde est dans le même sac, il est difficile qu'il puisse y avoir opposition. C'est pourquoi nous demandons de tous nos voeux que les élections provinciales soient organisées pour que le peuple puisse choisir ses nouveaux représentants et ceci puissent exercer leur pouvoir conformément à la Constitution de la République.
Alors, un mot, honorable Kabouya, sur les conflits coutumiers. Généralement, on n'en parle pas. On a toujours l'impression que quand on parle de sécurité, c'est des vols, c'est des meurtres à gauche, à droite, mais les conflits coutumiers aussi, c'est un problème.
Oui, c'est vrai. Il est vrai qu'il existe des conflits coutumiers. Les conflits coutumiers sont vus comme le monde. Mais j'ai la note de conviction que avec un peu du sérieux, les amis peuvent mettre un terme à cette situation, parce que que voulez-vous? Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas de la famille régnante puisse quitter son groupement et aller chercher un document le reconnaissant comme chef de groupement à Kinshasa, sans que Kinshasa puisse savoir réellement si le prétendant au trône, c'est celui-là qui devrait normalement exercer ce pouvoir-là. Bon, il y a tous ces problèmes,
merci.
Mais pour ce qui est du personnel occidental, j'ai l'impression que cette question de conflit de pouvoir est un peu réglée. Mais le grand problème de sécurité qui se pose, c'est sur la bande vers Tamboué, sur la limite du territoire de Liban et du territoire de
Kamara.
Sur cette bande, il y a des incursions de temps en temps de compatriotes de la province du Kassai oriental qui viennent arracher
Merci, honorable. Merci, honorable. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Trudon Toumba, alors là, sur le plan socio-économique, vous avez suivi les quelques habitants de Kananga qui se sont exprimés. Parmi eux, certains disent qu'il y a un exode vers Kinshasa, vers Lubumbashi. Sur le plan socio-économique, quel bilan vous dressez?
Monsieur le journaliste, mais j'aimerais quand même, avant de répondre à la question replacée, la province du Kassai occidental, à l'instar d'autres provinces, a également été victime de la même mise. Je sais que l'opinion appelle ici les trésors du roi, qui sont là à Kinshasa, nos frères kassaïens, profitant de leur position, pour pouvoir imposer ici leur dictat. C'est notamment, il faudra, je le dis tout de suite en passant, c'est que il existe ce qu'on appelle les trésors du roi, et qui imposent leur dictat pour le choix de tel ou tel parti politique. C'est également qui impose ce qu'on appelle ici le mot de passe, le mot d'ordre, qui est aveuglément ici, suivi par le reste des syndicats ici. Et pour revenir à votre question, M. le journaliste, vous évoquez la question socio-économique. Mes prédécesseurs, notamment les micro-baladeurs, parlent d'un certain nombre de citoyens qui parlent en termes d'exode des acteurs économiques qui ont préféré lire, n'est-ce pas, leur habitat ailleurs. Et effectivement, c'est le cas de le dire. Et il faut aussi reconnaître que la culture fiscale, elle n'est pas facilement perçue ici, au point que la multiplicité ici d'impositions, la multiplicité des taxes et d'impôts est venue ici à la faveur de la volonté du politique de devoir pouvoir maximiser, n'est-ce pas, les recettes de l'État, a fait en sorte que beaucoup préfèrent émigrer, aller sous d'autres cieux, où ils passent de moins en moins, ou plus ils passent plus ou moins inaperçus. C'est le cas de le dire. Mais il faut aussi reconnaître un fait, c'est que il vous conviendra que lorsque le gouvernement, l'actuel gouvernement a eu à présenter son programme d'action lors de son investiture, il a eu à axer notamment son programme sur un certain nombre d'aspects, notamment la mise sur pied de ce qu'ils appelaient ici une régie financière provinciale qui est en pleine restitution à la faveur des partenaires, notamment le programme de gouvernance qu'on appelle ici le PSG, qui est financé par la Banque mondiale. C'est notamment ici le FORECO, ce qu'on appelle ici le fonds pour la reconstruction du passant occidental. Et le même gouvernement s'est également donné pour objectif de pouvoir maximiser, n'est-ce pas, les recettes, n'est-ce pas, de l'État. Et je me dis que tous ces programmes, tous ces objectifs devront, à mon sens, à notre sens, s'inscrire, n'est-ce pas, au diapason, n'est-ce pas, des capacités dont pourrait disposer la province, notamment en termes de défis à relever, en termes de bonne gouvernance participative, en termes de lutte quotidienne contre la corruption, en termes également de pouvoir tenir, n'est-ce pas, les milieux économiques, dès lors que l'on sait que l'économie qui sous-entend les mines, qui sous-entend l'agriculture, et qui sous-entend notamment les fonciers, pose encore d'énormes problèmes.
Merci.
Je m'en veux, oui, les preuves qu'on a. J'aborde notamment l'aspect, n'est-ce pas, de la maximisation des recettes.
Très rapidement, je vous en prie.
Ici, plusieurs défis restent encore à relever, notamment la maximisation des recettes, mais surtout en termes de la lutte quotidienne contre, n'est-ce pas, les prébendes, contre, n'est-ce pas, la corruption. Et ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est les mines. On sait qu'ici, les dignes de cette province, profitant de leur statut, préfèrent venir ici. Et dans les différents, vous savez, la province de Kassai occidentale, c'est une province agricole, une province également minière. Et dans les îles, notamment de Sikapa, dans le territoire de Lebo où les minerais s'exploitent, je parlais de ce frère-là qui débarque le film Kassai, ils préfèrent extraire, n'est-ce pas, les matières minières.
Merci.
Et repartir sans que la province ait pu bénéficier, n'est-ce pas, de la moindre rétrocession. Moi, je me dis de ce point de vue-là, il y a encore un grand
beaucoup de choses à faire. Voilà, on l'a compris, être dans Tumba. Je redonne la parole tout à l'heure. Maître Soudi, à Louis-Marie qui nous écrit du Katanga, qui dit « Pour moi, tant qu'il n'y aura pas d'énergie pour faire fonctionner les entreprises et la réhabilitation des routes de desserte agricole pour désenclaver la province, rien de bon ne va se concrétiser. » On sait que pour le Kassai occidental, Maître Soudi, le problème d'électricité est une vraie épine dans le pied de cette province.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit l'électricité seulement qui va venir régler tous les problèmes du Kassai occidental. Du point de vue économique, si vous le permettez, moi je voudrais peut-être que nous puissions séquencer ça sur deux points. Il s'agit ici d'abord du financement de la décentralisation elle-même, parce que c'est ça le moyen de fonctionnement de la province. Est-ce que la rétrocession, elle est effective? Parce que la théorie des 40% est utopique, c'est une utopie constitutionnelle. Mais la part de la répartition là qui est en train d'être faite, est-ce que cette part est effective? Et quelle est la possibilité de cette part-là à résoudre le problème de la province? C'est ça la grande question. Là, il y a une responsabilité partagée du pouvoir central et des provinces. Le peu qui arrive aussi au niveau des provinces. Quel est le taux de répartition au niveau entre les provinces et les entités territoriales décentralisées dans cette province-là pour promouvoir le développement local. C'est là aussi qu'il y a un problème. Parce que lorsqu'on doit attendre tout de la province, et la province ne sait pas à son niveau responsabiliser les entités de base pour promouvoir le développement à ce niveau, il y a un oui sur roche. Il y a aussi dans ce domaine économique la question de l'organisation des services provinciaux de collecte de recettes. J'ai entendu l'intervenant tout à l'heure parler de la réorganisation des services de la brigade provinciale de collecte des recettes. C'est bien, mais quel est le niveau de la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la province à travers cette structure? Ou encore, c'est quelque chose qui s'est fait encore à titre d'essai, je ne sais pas, parce que là, nous n'avons pas trop d'éléments là-dessus. Il y a la question de l'application de la loi nationale sur la nomenclature des impôts et taxes, parce que cette loi-là détermine un certain nombre d'impôts et de taxes qui sont dévolus à la province. Quelle est la capacité de la province de mobiliser ces recettes? Là, il y a aussi une responsabilité de l'Assemblée provinciale. Cette loi renvoie à plusieurs mesures d'application qui doivent être initiées par l'Assemblée provinciale. Qu'a fait cette Assemblée provinciale pendant cette période? Parce qu'il semblait y avoir une accalmie, ça veut dire que c'est la période de la plus grande productivité. Qu'est-ce qui a été fait? Vous voyez qu'il nous manque quelque chose. Un membre du gouvernement provincial devait être là pour nous répondre.
Voilà. Malheureusement, alors, comme je l'ai dit, tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du gouvernement provincial, tous nos efforts se sont avérés vains.
Oui, si vous permettez, monsieur...
Très rapidement, monsieur Alain, il nous reste au moins de 7 minutes.
Il y a aussi la question de la promotion de l'entrepreneuriat privé. Au niveau de chaque province, est-ce que, parce que tous les secteurs à travers le monde, nous le savons, que on ne peut pas, l'État ne peut pas à lui seul réaliser tout. Quelle est la part du gouvernement provincial sur l'encouragement de cet entrepreneuriat privé? Rapidement, sur les questions sociales, je crois que il faudra que nous soyons en mesure aujourd'hui d'évaluer l'action du gouvernement provincial à travers les objectifs du millénaire développement. L'accès aux structures de santé. Quelles sont les institutions de santé qui ont été mises en place par le gouvernement provincial? C'est fonds propres, parce qu'il faut faire la nuance entre ce que le gouvernement central fait et ce que les partenaires font. Ici, nous devons évaluer l'action de la province à travers ce qui a été fait sur des ressources propres de la province, à l'initiative propre de la province. Cela revient tout de même à la question de la scolarité. Quelqu'un a parlé de la prolifération des instituts supérieurs, ainsi de suite. La prolifération des écoles. Quel est le rendement, la qualité de cet enseignement? Et puis la répartition de ces institutions scolaires et universitaires au niveau de l'ensemble du territoire.
Merci.
Vous allez voir qu'il y a des enfants qui quittent 20 km pour aller étudier. Est-ce que le gouvernement provincial a pu faire quelque chose?
Alors,
je voudrais rapidement parler de la question de l'eau potable.
Je pense que vous pouvez déjà conclure par là, Maître Soudi.
Oui. Alors, vous voyez qu'il y a, trop de choses en même temps. La question des infrastructures routières. Nous avons parlé des recettes bientôt. La province Kasso-Orientale est à une frontière avec l'Angola.
Kasso Occidentale, vous voulez dire.
Entretenir, par exemple, les routes qui permettent à ce qu'il y ait un flux d'entrée, des marchandises, ainsi de suite, pour qu'ils puissent constituer une assiette de sable.
Merci, Maître Soudi. Honorable Martin Kabuya, il nous faut déjà conclure, mais allez-y, un mot pour vous en ce qui concerne le volet socio-économique.
Merci Alain. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter la pression fiscale sur les opérateurs économiques du Kasaï occidental afin d'empêcher leur exode et surtout la fuite de leurs capitaux. Parce qu'on dit trop d'impôts sur l'impôt. Il faudrait que le gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale se mettent ensemble pour réclamer du gouvernement central la rétrocession, soit la retenue de 40% pour ne pas à emboîter les pas à Maître Soudi qui a parlé de l'utopie constitutionnelle. Il faudrait vraiment que ces institutions puissent se mettre ensemble, la main dans la main, pour faire pression sur le gouvernement central de façon à ce que nous ayons les 40% de promis dans la constitution. Et aussi, il faudrait que nous prenions conscience pour booster la construction de la centrale hydroélectrique de KTND qui va à terme électrifier les Kasaï occidental et les Kasaï oriental et partant va booster le développement de cette province. Et, tout à l'heure, un ami a signalé que la frontière entre l'Angola et la RDC au niveau de Kamabanji, Tinkenke, Kalambambouji et ailleurs a été ouverte. Ce que nous saluons, mais il faudrait qu'on puisse aménager les routes qui doivent nous emmener vers l'Angola pour le port de Lobito, de façon à ce que les opérateurs économiques de cette province puissent importer davantage, parce que là, la distance n'est pas tellement longue que passer par les 4 Angolais.
Merci, donc, merci. Merci, honorable Kabuya. Souffrez que je vous arrête. L'émission va se terminer dans moins de 2 minutes. Trudeau Ntumba, est-ce que ces échanges commerciaux entre la province de Lunda Norte et la province du Kasaï occidental sont profitables?
Oui, ils seront profitables dès lors qu'ils pourraient, n'est-ce pas, ouvrir notre province qui est très enclavée, n'est-ce pas, vers d'autres cieux. Nous en trouvons des défis ici, relever un certain nombre de défis, c'est peut-être là ma conclusion. J'aimerais vivement ici mettre le jeu de voir, n'est-ce pas, les autorités du Kasaï occidental faire en sorte, n'est-ce pas, d'aplanir ce fossé qui est en train de se valoir entre les gouvernants et les gouvernés. Il est vrai que les attentes sont énormes. Mais encore faudrait-il ici pouvoir engranger les ressources, tant matérielles que humaines, pour pouvoir être en mesure, n'est-ce pas, d'être à la hauteur des attentes de la population, dès lors que l'on sait que l'avènement de la suite gouvernement à la tête du Kasaï occidental a suscité pas mal d'attentes. Mais encore faudrait-il que, n'est-ce pas, les gouvernants provinciaux continuent de mériter cette confiance jusqu'au bout. Il est vrai qu'ici, c'est plutôt le gouvernement central, au nom de ce que mon prédécesseur a appelé ici l'utopie constitutionnelle, constitue à un moment donné presque le boulot d'étranglement en termes, n'est-ce pas, de la matérialisation des attentes profondes de la population. Mais pour ce qui nous concerne, que ce soit du point de vue politique, du point de vue sécuritaire, du point de vue socio-économique, il est vrai qu'il y a beaucoup de défis à relever, mais que le gouvernement regarde de l'avant, surtout pour pouvoir, n'est-ce pas, faire plutôt combattre la corruption qui, malheureusement, a élu domicile dans l'administration publique de la Kasaï occidentale en termes de ce que les gens appellent une rétrocession.
Merci Martin Trudon Tumba, acteur de la société civile du Kasaï occidental. Merci à Maître Soudi Alima Sikimputu, expert en décentralisation, et à l'honorable Martin Kabuya. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer, à présenter cette émission. Guy Maté, Kevin Kouté, sous la supervision de Pélé Kipela. Dieudonné Nyangas a été à la mise en onde. Moi, c'est Alain Roux, je vous l'ai présenté. Et vous nous avez suivis. Bonne suite au programme sur Radio Kapi.